RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, RMC, RMC Story, tous les jours, il est 10h02, la première heure des GG est passée, vous pouvez d'ores et déjà la retrouver en podcast sur notre site internet rmc.fr ou bien sûr l'appli RMC, les podcasts à votre disposition tous les jours, bien sûr, pour pouvoir rattraper tous les shows des GG, les shows des grandes gueules. Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire, Jérôme Marty, médecin généraliste en Haute-Garonne, Sarah Salman, avocate à Paris. Voilà le trio de GG qui nous accompagne et vous accompagne en direct jusqu'à midi. La nouvelle loi anti-squat, parlons-en maintenant.
RMC, les grandes gueules.
En fait, le gouvernement veut durcir la loi face aux squatteurs et loyers impayés. Bref, il souhaite protéger davantage les propriétaires, d'où cette proposition de loi. Mais ce n'est pas du goût de la gauche et des associations qui protègent le logement en particulier.
Alors, l'auteur de cette proposition de loi s'appelle Guillaume Casbarian. C'est un député de la majorité, député Renaissance. Il dit qu'il a reçu des dizaines de témoignages de petits propriétaires en contentieux depuis parfois 2, 3, voire 4 ans avec leurs locataires qui ne payent plus. Et beaucoup de ces petits propriétaires s'indignent de voir finalement les squatteurs bénéficier de la protection de la loi. Il veut donc être plus sévère contre ces squatteurs. Il propose de tripler les sanctions encourues par les squatteurs jusqu'à 3 ans de prison. Il veut également que la justice aille plus vite parce que ces délais, effectivement, sont insupportables. Et donc, le texte réduit la durée de la procédure judiciaire et prévoit que certains délais pouvant être accordés par un juge ne soient désormais envisageables que si le locataire en fait lui-même la demande. Bref, se passer d'un juge en quelque sorte. Alors, voilà ce que dit donc ce député. Puis de l'autre côté, on a la Fondation Abbé Pierre, on a des députés de gauche qui disent que cette loi va fabriquer du SDF et qu'au moment où les temps sont difficiles, il ne faut pas en rajouter, il faut protéger au contraire le locataire.
Est-ce que je peux rappeler l'état du droit actuel? Voilà. Parce qu'actuellement, si on est squatteur, on encourt 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Si jamais moi j'ai un squatteur et que je l'expulse manu militari, j'encours 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Ça veut dire qu'on fait primer le droit au logement sur le droit de propriété finalement. Sachant que quand on les met au tribunal, les squatteurs, ils sont, on s'en doute, insolvables. Donc c'est particulièrement honteux parce qu'une fois aussi qu'on a la décision de justice, il faut la faire exécuter. Il faut le concours de la force publique. Ça met encore des mois. Tout cela entrecoupé par la trêve hivernale. Moi je connais la tante d'une de mes clientes qui avait besoin du loyer pour payer son propre loyer, eh bien, elle s'est retrouvée en domicile précaire à vivre chez d'autres personnes. Donc, c'est parfaitement scandaleux. Donc, tous ces donneurs de leçons de gauche, ces gauchistes EELV, je les invite aujourd'hui à prendre chacun un SDF ou un migrant chez eux, voilà, dans leur lit, comme ça.
Dans leur lit, carrément.
Bah oui, non, mais autant, je veux dire, on n'est pas en URSS, là.
Après, il y a des gens qui ne peuvent plus payer et qui sont de bonne foi. Il n'y a pas que des malhonnêtes.
Non, mais là, on parle des malhonnêtes. Moi, alors, j'aimerais aussi parler d'un.
Alors, quand tu interroges les associations, elles te disent que ces malhonnêtes sont minoritaires.
Non, mais est-ce que je peux parler aussi d'un arrêt de la Cour de cassation qui m'a particulièrement marqué? C'est un arrêt qui a été rendu donc en septembre, donc assez récemment. C'est un arrêt selon lequel c'est un locataire qui a poursuivi le bail alors qu'il aurait dû quitter les lieux. Et cet arrêt, il est très frappant parce que la Cour de cassation affirme que même si un locataire cesse de payer et refuse de quitter les lieux, en l'espèce, il y avait une décision, un logement doit continuer d'être entretenu par son propriétaire. Donc, la locataire qui devait partir a fait une chute à cause d'un défaut d'entretien. Elle a attaqué le propriétaire qui a été condamné à verser plusieurs dizaines de milliers d'euros.
Et pourtant, elle ne paye plus son loyer.
Elle paye plus son loyer. Donc, est-ce qu'on n'arrive pas à une situation particulièrement ahurissante? C'est remonté jusqu'à la Cour de cassation, qui est la juridiction suprême en France. C'est un scandale. Ça veut dire qu'elle ne peut plus récupérer son logement et la locataire qui aurait dû partir a l'outrecuidance de l'attaquer parce qu'elle est tombée face à un défaut d'entretien. Voilà l'état du droit actuel. Donc on fait primer ces délinquants, parce que c'est une forme de délinquance, sur le droit de propriété. Quand on a travaillé toute sa vie pour payer un logement, on n'a pas à subir ce genre de situation.
Monsieur Marty Jérôme, docteur.
On en a parlé à plusieurs reprises. Ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, tu rentres dans un logement dit vacant, mais qui appartient à quelqu'un, tu changes les serrures, t'es chez toi, quoi. On marche sur la tête.
C'est le droit qui est mal fait.
Alors après, il y a deux choses.
Alors que si le propriétaire change les serrures,
il est condamnable.
Il est condamné. Mais ceci dit, il y a deux choses. Il y a les gens qui s'emparent comme ça de logements vacants et qui font un viol de propriété en quelque sorte. Et puis, tu as les gens qui, effectivement, ont des difficultés économiques, ne paient plus leur loyer. Et traditionnellement, on avait une période hivernale qui courait sur 6 mois.
Elle sera maintenue pas... par la loi.
Mais ils veulent la réduire, je crois.
Non, je crois que la
ils veulent la réduire, ils veulent moi,
pas
il me semble.
Donc, c'est... Non, non, ils veulent pas la bouger.
Ce qui est certain, c'est que dans ce pays, on a 10 millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté et qu'il y a une fragilisation avec
des paiements de loyer ou des remboursements.
Avec un pays qui devrait avoir des...
Ouais, mais est-ce que c'est aux propriétaires de s'en
soucier? Non, ce que je suis en train de te dire, on devrait avoir une vraie politique du logement avec des logements qui sont laissés à ces gens qui ne peuvent plus payer leur loyer ou à ce moment-là, on leur permet de trouver un logement.
Justement, tiens.
Mais là.
Attends, parce que ça rejoint ce que disait Olivier tout à l'heure. La fameuse garantie universelle de loyer devait être mise en place.
Ça n'existe elle n'a pas.
Jamais non, été mise en place.
Si mais surtout quand on fait une loi, c'est pour l'appliquer.
Oh, ça dépend, tu sais.
Non, mais à l'évidence. Rare, en fait, hein. À l'évidence, les gens qui captent un logement vacant ou qui ne paient plus leur loyer ne sont pas solvables. Et là, on te dit qu'on va leur mettre combien de 45 000 euros d'amende.
En fait, on envoie d'aligner les deux régimes. Ça veut dire
oui,
que
j'ai bien compris.
Oui, mais ils sont pas solvables.
Sauf que c'est pas applicable. Ils sont pas solvables. Donc tout ça, c'est de la poudre aux yeux, quoi. On ferait mieux de s'attacher à construire des logements pour les réserver provisoirement à des gens qui, quand ils sont dans la panade, ne peuvent pas payer leur loyer et ne peuvent pas précipiter comme ça, dans la pauvreté, comme tu le disais, les gens qui sont propriétaires, parce que ça arrive. Tu as des gens qui sont propriétaires qui sont à deux doigts, eux, de basculer.
Je vous rappelle qu'il y a quelques années, loyer, on avait fait de bons débats dans les GG, Didier s'en souvient. On avait mis en place le droit au logement opposable, c'est-à-dire une espèce une espèce de garantie que tout le monde aujourd'hui est un toit, tu te souviens?
On voit
bien que ça n'a pas fonctionné.
Mais
on
voit qu'on est arrivé au bout. Ça a fait plaisir à ceux qui l'ont décidé, c'était du temps de Villepin, je me souviens, mais effectivement, c'est pas donné les moyens de l'appliquer.
Non, alors on ne construit pas,
c'est des lois de bonne conscience.
À mon avis, dans cette histoire-là, il y a plusieurs catégories, tu l'as dit, qu'il faut distinguer. Il y a des gens qui occupent un logement de mauvaise foi. Il y a des gens qui ne peuvent pas payer leur loyer de bonne foi.
Oui.
À mon avis, ça nécessiterait quand même de trier là-dedans.
D'ailleurs, on pourrait supprimer la trêve hivernale pour ceux qui ne sont pas de bonne foi.
Bah voilà.
Mais alors le critère de
attends, je comprends pas qu'un type malhonnête bénéficie de la trêve hivernale. Non,
quand
ça
tu commences à changer les serrures,
on peut loger en prison.
Alors que t'as injonction de quitter les lieux,
on peut loger en prison.
Il y a ça, et je rappelle aussi que dans ce pays, il y a quand même des communes qui paient des amendes pour ne pas construire de logements sociaux.
Oui.
Quoi. Bah, faut le dire, quoi. Il y a aussi un regroupement de la pauvreté qui se fait à certains endroits. Il y a aussi des gens qui trient qui sont leurs locataires dans les HLM et je pense que on peut pas demander aux propriétaires privés de pallier aux carences de ce qu'est les collectivités territoriales.
Et puis tu peux pas avoir le territoire d'exclusion, quoi.
Bah, c'est exactement ça. Et dire aujourd'hui durcir cette loi, ça va créer des SDF, à mon avis, c'est pas systématique, même si ça va y contribuer, je pense qu'il faudrait mieux aller dans le durcissement de la loi. Pour ceux qui abusent.
Oui,
quoi.
Mais tu vois, c'est un combat idéologique, Didier, parce que on voit bien la droite va sans doute.
Et faudrait pas que ça soit un combat idéologique.
Permettre à ce député de faire passer sa loi grâce au RN et au LR, et puis la gauche est vent debout. Oui. Donc la gauche se met du côté, c'est un peu même caricatural, c'est-à-dire que la gauche se met du côté des locataires et la droite du côté des propriétaires. Donc pour la gauche, le propriétaire est un salaud, et pour la droite, en gros, le locataire est un fumiste.
C'est ça.
On en est là, quoi. Et hier, quand tu interroges quelqu'un Fondation Abbé Pierre, t'es un peu renvoyé, t'es un peu un facho si tu dis simplement le propriétaire, il n'a pas à subir le fait que le locataire se comporte pas.
C'est à mon avis plus compliqué que le projet de loi.
Mais quelque part, ça a du bon, tu vois, parce qu'on avait oublié cette bipolarité politique. On avait oublié avec Macron, on avait oublié ça. Là, on y revient d'un coup.
Tu vois,
bienvenue dans les années 80. Non, c'est pas mal, ça nous renvoie à la jeunesse.
En dehors de la blague, Jérôme, moi, j'ai déjà alerté à ce micro. Le fait qu'aujourd'hui il faille changer la loi, parce que le fait qu'un locataire qui est rentré, on ne puisse plus jamais le virer, si ce n'est après des années de procédure, ça fait en sorte qu'en milieu rural, et là je parle d'un truc très spécifique, en milieu rural, il y a plein de maisons qui sont à l'abandon parce que les gens préfèrent les laisser à l'abandon plutôt que de prendre des locataires.
Oui,
voilà, tout simplement.
Il y en a beaucoup des maisons vers chez toi comme ça.
Ah ouais. C'est soit quelqu'un décède, soit les héritiers y vendent. où ils peinent à vendre, soit les maisons sont fermées.
J'aimerais aussi qu'on
a beaucoup de squattés vers chez toi ou pas?
Non, je pense que c'est un phénomène. Je pense qu'il y a quelques personnes qui n'arrivent pas à payer leur loyer. Ça doit pouvoir arriver. Mais des squats manu militari en cassant les serrures, rentrer dans les maisons, je connais pas ça.
Les villages entiers qui sont. Mais c'est pas normal que la justice mette autant de temps à régler ces.
Non, mais la justice a un problème de lenteur dans tous les aspects. Quand vous demandez, par exemple, si demain tu divorces, je ne te le souhaite pas, on aura peut-être une audience fin 2023. Donc,
la justice, parce que là, c'est vraiment la justice du quotidien. C'est vraiment des problèmes des gens.
C'est ce qu'il y a de plus long. Après,
moi, ce que je comprends pas, explique-moi, parce que par exemple, je trouve que la justice va vite quand il y a des trucs de diffamation, des trucs un peu médiatiques.
Non, ça voilà, va pas vite. C'est juste que le délai de prescription est très court.
Ah oui.
Il est très court.
Parce que sur la justice du quotidien, il faudra accélérer les procédures.
Oui, mais quand on accélère, par exemple, en pénal, en comparution immédiate, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure des choses non plus. Là, j'aimerais aussi parler d'une chose, c'est les personnes qui héritent d'un logement qui est squatté. Parce qu'il y avait eu une affaire il y a quelques années où une dame avait fait une tentative de suicide devant la mairie de Paris parce qu'elle n'arrivait pas à récupérer le logement squatté dont elle avait hérité. Donc ça veut dire que vous payez des droits de succession sur quelque chose qui est squatté. Donc ça, c'est une situation aussi dont on ne parle pas assez. Et je trouve que c'est quand même scandaleux. Mais je reviens sur ma proposition initiale. J'aimerais que les députés de la NUPES hébergent chacun un SDF parce que je pense que ce serait la solution. Parce que tous ces beaux donneurs de leçons avec leur discours gauchiste et EELV, eh bien, ils pourront accueillir dans une chambre d'amis, je suis sûre qu'ils en ont une dans leur duplex à Montmartre, ils pourront accueillir un migrant ou un SDF.
C'est Franck qui veut discuter avec nous, il est dans le 17e arrondissement de Paris. Bonjour Franck.
Oui, bonjour.
Vous vouliez parler de votre cas particulier, dites-nous.
Oui, alors, de manière générale, parce que je vous ai entendu sur la question du logement. Bon, alors, c'est vrai que c'est toujours le même discours depuis des années et des années, quel que soit le gouvernement qu'on a, de savoir si on n'expulse pas, quand est-ce qu'on expulse et autres. Bon, alors, moi, je vais vous dire une chose déjà, c'est que si la loi était appliquée, il y aurait peut-être plus de bailleurs qui mettraient leur logement sur le marché.
C'est vrai.
Alors ça ne réglerait peut-être pas la question du logement.
Ouais, mais la concurrence fait que ça baisserait le prix, quoi.
Oui.
Mais, et en plus, c'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'en plus, vous auriez de la concurrence et les prix des loyers baisseraient. Ça, c'est le premier élément. Pendant longtemps, on nous a parlé du logement social. Il ne faut pas oublier qu'à Paris, on a toujours, chaque année, alors un peu moins maintenant, des scandales sur tel élu qui est dans un logement social ou pas.
C'est pas faux.
Déjà. Troisièmement.
On en a une récemment, non?
Ouais, tout à fait, avec une élue, LFI, je crois, Madame Simonet. Ouais.
Toujours dans les bons coups.
Voilà, toujours. Mais alors là, je dirais que à gauche et même à droite, à une époque, on entendait les Tibéri qui avaient toujours des logements et tout ce qui suit. Bon, bref. Et cette question de logement, elle revient toujours. Moi, je vais vous parler d'un cas particulier. Moi, je suis squatté, mais il faut savoir une chose, c'est que les tribunaux sont assez hypocrites. Parce que qu'est-ce qu'on appelle un squat? C'est au bailleur de démontrer que la personne est entrée illégalement. Donc, j'ai un cas où une personne est rentrée dans un appartement qui était en travaux. Mais il devient, parce que les squats sont bien plus intelligents que certains magistrats,
ils mettent les factures EDF à leur nom.
Il est à nous. Voilà, alors il y a les factures, il y a autres, mais il devient occupant sans titre. Donc, comme il est occupant sans titre, il n'est pas squatteur. Donc, vous avez des décisions, bien sûr, d'expulsion. Moi, j'ai par exemple un cas où j'ai une décision d'expulsion qui date d'il y a 3 ans. C'est énorme, quand même.
Et vous avez du mal à la faire exécuter parce que le préfet...
Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe. C'est qu'on a des décisions d'expulsion. On a une date donnée par la préfecture de police, mais qui est toujours annulée une heure avant.
Pourquoi?
Parce qu'il y a la loi d'Allot.
Pourquoi? Voilà, très bien. Parce qu'il y a la loi d'Allot. Donc, en fait,
droit au logement opposable.
Le droit au logement opposable, comme se crée cette notion de droit au logement opposable, donc le locataire bénéficie du DALO, donc le préfet de police annule la décision d'expulsion. Donc ce n'est inexpulsable. Et sur cette loi-là, moi je vais vous dire une chose, alors qu'on sanctionne plus, ok, mais la réalité, vous connaissez un squatteur en France qui a été condamné pénalement? Ça n'a jamais existé. Alors, il faudrait peut-être déjà appliquer la loi. Ça ne sert à rien de ressortir d'autres lois. On a toujours une tendance à sortir des lois qui donnent l'impression, en fait...
C'est ce que l'on appelle des lois bavardes.
Tout à fait. Oui, on va pénaliser encore plus le squatteur, mais ce n'est pas vrai. On n'applique déjà même pas la première.
Mais Franck, vous avez réussi à faire sortir ce squatteur ou pas?
Ben non, pas du tout, parce qu'on est reparti sur une période...
Attendez. Donc, je voudrais qu'on résume ce qui s'est passé pour vous. Vous aviez un appartement qui était en travaux, d'accord?
Le squatteur rentre dans l'appartement.
Comment il a réussi à rentrer?
il est rentré, il a cassé la porte, il est rentré. Il
ça, c'est une effraction, ça.
Ah oui, mais vous savez.
Et comme il l'a réparé derrière.
Il a refait sa porte comme il faut après.
Il a refait sa porte comme il voulait.
Mais vous n'avez pas pu le dégager vous-même?
Là, pour le coup, il y a une vraie sanction qui sera appliquée.
Par contre, si vous le faites, là, vous avez une vraie sanction. Moi, ça m'est déjà arrivé.
Là, ça rigole pas pour le coup.
Ça m'est déjà arrivé.
Et là, par contre, vous êtes plus. Alors, je vais vous dire un truc. Là, vous êtes convoqué immédiatement au commissariat de police.
Là, vous êtes.
C'est-à-dire que le type, il est capable d'aller porter plainte.
Oui. Bien sûr.
Petite demande de renseignement encore, Franck. Le squatteur, son profil, quel âge, homme, femme, que fait-il?
Alors, écoutez, il est pas en famille, parce qu'a priori il est séparé, il vit seul. Comment dire? En plus, moi, ça a été très loin, parce qu'il a fait un recours. Enfin bon, bref.
Il est costaud.
Il a fait un recours.
Mais je vais vous expliquer, parce qu'après, quand un squatteur reste plus de 2 ans dans un appartement,
c'est un ancien magistrat, en fait.
Il vous dit, j'ai commencé à prendre des habitudes de vie dans ce quartier. Eh oui. Des habitudes de vie dans l'immeuble.
Des amis, c'est que des amis.
Et que la personne va défendre le fait
qu'elle bouge. Ah oui, du coup, je connais.
Il fait des soirées.
Le fait que vous n'avez pas d'urgence, parce que ce n'est pas mon appartement, ce n'est pas ma résidence principale. Donc elle dit qu'il n'y avait pas d'urgence à ce qu'il obtienne. Mais moi, je voudrais rajouter un point qu'il faut que tout le monde sache, parce que c'est très important. Quand vous avez une décision d'expulsion, le tribunal fixe une indemnité qui est bien loin, une indemnité d'occupation, que la personne ne paye jamais, puisque la personne dit qu'elle était
arnaquée. C'est ce qui revient au loyer qui aurait dû être payé.
Tout à fait. Elle dit qu'elle aurait été arnaquée, mais qu'elle a payé des sommes, mais quand c'est vous, elle connaît le bailleur, elle vous paye jamais. Mais bon, bref, il y a une somme qui est fixée. Alors l'État vous dit, vous avez un recours possible. D'ailleurs, le montant qui est fixé n'est jamais le prix du loyer normal. Vous avez un montant qui est payé, mais vous rendez compte que ça fait 3 ans que vous devez demander chaque mois à l'État le paiement. Est-ce que les personnes savent, est-ce que les Français savent combien ils payent là-dessus?
C'est n'importe quoi, mon cher Franck. Courage à vous, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter dans les GG, dans les grandes gueules.
Sincèrement, on serait tenté, quand ça arrive,
de le faire soi-même.
On est d'accord.
Non, mais là, Didier. Tu peux demander une garde à vue tout de suite.
Merci Franck. Dans un instant, Christophe, il est en Seine-et-Marne, il est en invalidité et il a une ou deux petites histoires à nous raconter aussi. Alors, cette loi qui doit protéger le propriétaire, loi dite anti-squatteur, attention aussi à ce qu'elle ne fabrique pas des SDF et de la précarité, c'est peut-être le danger. Et on en parle avec vous au 32-16, il est 10h20, vous êtes sur RMC, RMC Story, c'est l'heure des GG.
RMC, 9h midi, les grandes gueules,
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Les grandes gueules avec aujourd'hui l'avocate Sarah Salman, le médecin généraliste Jérôme Marty, l'agriculteur de Saône-et-Loire Didier Giraud. On parle de la loi présentée comme une loi anti-squat pour protéger les propriétaires. C'est Christophe qui veut réagir au 32-16. Il nous appelle de Seine-et-Marne. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous aussi, vous vouliez nous parler de votre exemple concret, Christophe, alors.
Oui, alors je vais vous expliquer, ne me coupez pas, vous allez vite comprendre. Donc moi à 33 ans, je travaillais depuis l'âge de 14 ans, j'ai travaillé très dur pour y arriver, je suis un autodidacte. Donc j'ai pu payer mon bien principal cash. Mm-hmm. Et à cette époque, il y avait la loi d'Eurobien qui nous offrait des appartements à loyer modéré. Donc j'ai acheté 2 appartements à loyer modéré. Oui. Donc ces 2 appartements me coûtaient une certaine somme tous les mois, plus les charges. J'ai eu 7 locataires au total sur les 2 appartements. Certains ont payé pendant 2-3 mois, après ne payaient plus. Donc pour les mettre dehors, c'était toute une histoire.
Ils ne payaient plus parce qu'ils ne pouvaient pas, ils étaient en difficulté, ou ils ne payaient pas simplement par malhonnêteté?
C'est par malhonnêteté, je pense. D'accord. Parce que tous ces gens-là sont malhonnêtes, je pense. Parce que ils refusent le dialogue. Et donc, j'ai pris un avocat. Ça a duré 3 ans, l'histoire. Ça m'a coûté une fortune, l'avocat. Mais bon, c'est normal, c'est les prix, quoi. Et donc, moi, ce qui s'est passé, c'est que comme ça a duré très longtemps, j'ai été endetté, parce que je me retrouvais à payer les crédits, les frais de copropriété. De plus, avec ma femme, ça a créé des tensions. On s'est séparés, donc on pouvait plus vivre sous le même toit. Et comme vous dites, ça a créé des SDF. Moi, j'ai été SDF pendant 1 an et demi avec une gamine de 4 ans et mon fils de 5 ans.
Parce que vous n'avez pas réussi à récupérer vos loyers pendant un temps, donc. Voilà, et comment ça s'est terminé, l'histoire?
Au bout de 3 ans, ça s'est concrétisé. Les deux appartements étaient vides. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai vendus, mais je les ai vendus à perte.
D'accord.
Donc, en fait, dans l'histoire, j'ai perdu près de 150 000 euros.
Et quel était le profil de ceux qui occupaient et ne payaient pas vos appartements, alors, vous savez?
Au début, des bons profils, parce qu'en plus, j'avais mis ça, pour ne pas citer Foncia.
D'accord, l'agence immobilière.
Voilà, qui s'occupe de ça. Donc, c'était traité toujours en commission. D'accord. Pour voir si les gens étaient solvables. Mais au bout d'un moment, ils ne payent plus. Mmh. Et puis, voilà.
Donc, c'était des gens qui avaient un bon dossier de base.
Ça veut dire que c'est prémédité dans ce cas-là, le fait de ne plus payer.
Oui, je pense que tout c'était prémédité. Et puis, moi, en étant je ne vais pas dire un bon français, un bon citoyen, je dirais, voilà. Moi, quand je ne peux plus payer, je vais chercher ailleurs.
On déménage pour moins cher.
Je vais pas endetter les autres, quoi.
Bien sûr.
Votre problème et pas celui du propriétaire.
Mais alors, Christophe, justement, vous allez écouter Marie Rotman qui est avec nous. Bonjour, Marie. Bonjour. Chargée de prévention contre les expulsions à la Fondation Abbé Pierre. Donc, la nouvelle loi, elle est là pour protéger des gens comme Christophe, Marie Rotman.
En réalité, cette nouvelle loi ne va pas protéger les gens comme Christophe, parce que la loi a déjà mis en place un certain nombre de dispositifs de prévention. Ce qu'il faut, c'est que l'État remplisse ses obligations, que l'État reloge les personnes qui ont fait une demande de logement social, que l'État reloge les ménages prioritaires d'Allo, que l'État lutte contre les logements vacants. C'est effectivement pas à des personnes comme Christophe de gérer la crise du logement dans laquelle le pays est aujourd'hui. Hein, c'est à l'État de remplir ses obligations. Donc la loi protège déjà suffisamment. Oui. Là, on va, si vous voulez, réduire certains délais, mais certains délais qui permettent de trouver des solutions. S'il y a des dispositifs de prévention,
4 ans.
C'est pas contre le locataire, c'est pour que le propriétaire récupère son argent. À partir du moment où il y a un impayé, il faut pas penser expulsion forcément. Il faut penser remboursement de l'impayé. Et tous les dispositifs qui sont mis en place.
Il y a des impayés, moins
bien. Tant que les locataires sont là, madame, ça court, les dettes s'accumulent aussi.
Les dettes s'accumulent, bien sûr, mais si on met en place des dispositifs, il y a des aides qui existent qui peuvent rembourser les impayés aux propriétaires. Et je peux vous dire que malheureusement, il y a beaucoup de propriétaires qui refusent ces aides.
Il n'y a pas la garantie de loyer universel devait être mise en place,
normalement. Il n'y a pas la garantie de loyer universel, c'est bien ça la problématique. Elle devait être mise en place en 2014, elle a été votée en 2014. Elle n'a jamais été appliquée et puis elle a été complètement remise en cause et tombée aux oubliettes. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, des gens comme Christophe seraient protégés.
Donc voilà, on peut pas un peu responsabiliser les gens, ouais. Bien que l'État doit s'occuper de tout le monde. Il y a des situations de précarité.
Mais pardon,
il y a aussi des gens. C'est la vie. On a des accidents de parcours. On a tous déménagé parce qu'on pouvait plus payer son loyer. On prend un petit loyer, etc. On se débrouille.
Alors, on arrête d'être acculé pour se dire qu'on peut plus.
Voilà. Est-ce que vous pensez que quand on se retrouve en maladie grave, quand on perd son conjoint, quand on se sépare, quand on perd son emploi, puisque ce sont la quasi-majorité des personnes qui se retrouvent en impayé, est-ce que vous pensez que quand on a des ressources diminuées de moitié, voire plus de ressources du tout, on peut trouver un logement dans le parc privé? Non, c'est pas possible. Et est-ce que vous pensez qu'on peut accéder au logement social? Non, il y a 2,2 millions de personnes qui attendent un logement social. Donc oui, c'est de la responsabilité de l'État. L'État doit mettre en œuvre les politiques.
Le problème, c'est que la loi protège. On est d'accord, mais bien sûr, vous avez raison. Mais la loi protège autant le malhonnête que la personne honnête.
Non, elle protège beaucoup plus le malhonnête. Là, c'est
ça le problème. Non, elle protège pas beaucoup plus le malhonnête.
Bien sûr que si, la sanction n'est pas la même.
Non, c'est faux, madame, parce que.
Je vous dis que la sanction est beaucoup plus élevée pour
un droit de logement et il y a un droit de propriété, d'accord? Être expulsé, vous imaginez ce que ça représente?
Mais pour les gens malhonnêtes, ça devrait se faire tout de suite.
D'accord. Mais alors, vous imaginez-vous que les gens sont malhonnêtes? Mais est-ce qu'on est malhonnête quand on perd son emploi? Est-ce qu'on est malhonnête?
Les gens qui profitent du système.
C'est ce que disait Christophe tout à l'heure.
Mais Christophe, je comprends sa situation et je la trouve dramatique. Mais il dit lui-même, je pense que ce sont des personnes malhonnêtes. Au moment où les gens ont pris le logement, peut-être qu'ils avaient les moyens et peut-être qu'ils ont perdu.
Mais il l'a dit lui-même, il n'y avait aucun dialogue
dans
possible.
Dans ce cas-là, ils s'en vont.
Oui, il n'y avait pas de dialogue. Ça,
où est le problème? Dans ce cas-là, ils s'en vont.
Ils ne restent pas pour accumuler.
Non, mais il faut arrêter de dire que l'État prenne pour en charge. C'est aux gens de se prendre en main et
madame,
de se dire qu'on va trouver
demain,
des solutions.
Si vous avez le SMIC, vous pouvez trouver un logement dans le parc privé. Bon courage.
Oui.
Oui,
pas à Paris, mais oui.
Non, pas à Paris.
Non, mais madame, si vous permettez.
Paris, vos enfants sont à Paris.
Oui, enfin, non, mais madame, si
je crois en même temps.
Non, c'est trop simpliste, en fait.
Madame, si vous permettez, de la même façon qu'il existe de l'hébergement temporaire pour les personnes âgées quand elles sont entre, par exemple, un soin de suite et une EHPAD, et où on a des difficultés à trouver une place en EHPAD, il y a maintenant ce qu'on appelle l'hébergement temporaire. Est-ce qu'on ne peut pas créer, en quelque sorte, des hébergements temporaires pour ces personnes-là? Parce qu'on ne mettrait pas en péril comme ça les gens qui sont propriétaires et qui, des fois, eux, passent aussi dans la pauvreté, parce qu'ils ont eu, malencontreusement, la rencontre avec des gens qui ne veulent plus régler leur loyer, quoi. C'est de là quand même une problématique d'État. On a 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté et on file la patate chaude aux propriétaires.
C'est pas aussi simple que ça.
Oh bah, oui, excusez-moi, c'est jamais aussi simple, quoi.
Alors, mais non, c'est pas.
Il faut arrêter de défendre.
C'est surtout pas simple
de victimisation.
Laissez répondre, madame.
C'est pas simple de défendre les propriétaires.
Je ne victimise personne. Les situations tant des propriétaires que des locataires sont dramatiques. D'accord? Mais on va pas opposer une précarité à l'autre. Un locataire en difficulté, un propriétaire en difficulté sont tous les deux malheureux.
Oui, la loi est du côté du locataire aujourd'hui.
La loi n'est pas du côté du locataire.
Bien sûr que si.
Le propriétaire peut saisir un juge si le propriétaire.
Oui, mais ça dure 4 ans.
Mais madame, ce que je veux dire. Madame, ce que je veux dire, c'est qu'on peut être de droite, on peut être de gauche. Il y a un truc qui s'appelle la propriété privée.
Oui, et
il y a un truc qui s'appelle le bien privé que quelqu'un a construit une fois qu'il a réglé toutes ses taxes, tous ses impôts, toutes les charges à l'État, avec l'argent qui lui reste, il fait une propriété. Des gens s'arrogent de la prendre et de la garder. Ça serait plus du domaine de l'État de créer des places pour ces gens-là que de donner la patate chaude à la personne qui, avec le maigre pécule qui lui reste, a construit un bien.
Et madame, de dire qu'un squatteur est de...
Oui,
bien sûr.
Je m'exprime. Face à ce droit de propriété, il y a un droit au logement, d'accord? Je comprends, il y a effectivement des propriétaires comme Christophe qui se retrouvent acculés, qui ont des difficultés. Rappelons quand même que 75% des logements loués appartiennent à des multipropriétaires, d'accord? Et que la majorité des bailleurs a des revenus bien plus élevés que le reste de la population. Pour replacer dans un contexte, il n'y a pas que des petits propriétaires comme Christophe qui pâtit de ces difficultés, d'accord? Il y a beaucoup de bailleurs institutionnels, il y a les bailleurs sociaux bien évidemment, et il y a beaucoup de petits bailleurs privés qui ont 10 logements ou plus. Trois quarts, d'accord? Donc, déjà, replaçons ça dans son contexte. Oui,
l'État
devrait trouver des solutions. Ça ne me choque pas du tout.
Non, c'est je comprends bien, c'est le principe même. Vous êtes dans un combat idéologique contre la propriété privée.
Alors, est-ce que je viens de dire que ça me choquait?
Bah si, vous avez fait une réflexion, là, on l'a entendu.
Non, je rétablis la réalité des choses. Tout le monde, chaque propriétaire n'est pas en difficulté. D'accord? Quand on a 10 biens en location...
Et donc, il n'a pas à se battre pour récupérer son logement.
Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas sauver Christophe aussi?
Il a à se battre pour trouver, pour récupérer son logement, comme tout le monde a à se battre. Mais il y a une responsabilité, encore une fois, de l'État, et il y a des aides aides vis-à-vis des bailleurs qui peuvent être déployées.
L'État qui loge tout le monde, ça s'appelle l'URSS, madame. Hein, c'est
et là, vous parlez des gens honnêtes.
C'est parce que dit madame Rotan.
C'est une activité lucrative, la location, les loyers ont augmenté de 50% en 10 ans, le taux de l'immobilier a augmenté. Vous savez qu'il n'y a pas que des personnes qui se retrouvent en impayé.
Non, il y a des squatteurs qui rentrent par effraction, c'est vrai.
Il y a des squatteurs également. Et il y a aussi, j'allais vous parler des congés. Vous habitez dans votre logement depuis 18 ans. Il y a une étude qui vient de sortir.
Non, mais là, le sujet, c'est la loi anti-squat.
Oui, non, mais la loi anti-squat comporte des dispositions anti-locataires, madame. Et elle veut les pénaliser. Elle veut considérer que c'est un vol et les mettre en prison. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et pas choquant que des personnes qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu leur conjoint,
ils ont commis une infraction en fait.
Grave. Ce n'est pas une infraction à un payer de loyer, madame. Je pense que si vous êtes avocate, vous devriez
ne pas payer un loyer, c'est un problème. Et squatter, rentrer par effraction, si c'est une infraction.
Alors, le squat, c'est autre chose, mais la loi est suffisante. Mais la loi est suffisante aujourd'hui.
Bah, la preuve que non.
Regardez Christophe.
C'est pas parce que la loi. Mais
la preuve que non, on a des témoignages qui disent le contraire.
Vous me parlez de squat et vous revenez à des impayés de loyer. Alors attention, cette proposition de loi a eu le malheur de créer une confusion. Ce sont des situations différentes. La loi
est
de manière.
Oui, mais ça, il n'y a pas. Oui.
Là, on parle des squats.
Là, le sujet, c'est les squats. Voilà.
Merci Marie-Antoine, merci d'avoir été avec nous.
Ce sont des locataires en impayés.
Merci, merci de vos explications, merci d'avoir été avec nous. On va regarder la consultation. La nouvelle loi anti-squat va-t-elle créer des SDF? C'est un non à 72% pour ceux qui ont participé à notre discussion. Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, les indiscrets GG, des députés, les indiscrets politiques, des députés Rassemblement National qui sont allés visiter la prison de Fresnes. Et puis, on aura aussi le quiz des grandes gueules.
RMC, 9h30, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui, Jérôme Marty, médecin généraliste, et Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire. Nous sommes aussi avec Sarah Salman, avocate. Il est 11h moins le quart, c'est l'heure des indiscrets politiques.
RMC, les grandes gueules.
Les indiscrets.
Avec Sébastien Krebs du service politique d'RMC. Bonjour Sébastien.
Bonjour les grandes gueules.
On a une info RMC, des députés du Rassemblement National sont en prison ce matin.
Oui, vous savez, c'est un droit des parlementaires d'aller visiter à tout moment les établissements pénitentiaires. Eh bien ce droit, six députés RN sont en train de l'exercer. Ils sont arrivés ce matin à la prison de Fresnes. Fresnes, c'est pas un choix tout à fait anodin. Vous vous souvenez de cette polémique cet été sur les fameux jeux Koh-Lantès, parodie de Koh-Lanta avec ces images de karting dans la cour de la prison qui avait fait énormément réagir. La prison club de vacances, hein, dénoncé alors le Rassemblement National. Et puis pas anodin non plus le contexte, puisque cette visite intervient alors que le débat sur l'immigration commence à l'Assemblée la semaine prochaine. Immigration, délinquance, les députés RN vont en prison précisément pour établir ce lien. La députée Edwige Diaz, qui mène la délégation, nous l'a expliqué très clairement. Il s'agit d'aller constater que la surpopulation carcérale est en partie due à la surreprésentation des étrangers et donc de faire des propositions pour améliorer les expulsions.
Bon, ils ont pris un râle.
Pardon ?
Ils ont pris un râle. Non, vous savez, les râles, c'est les outils des peintres pour regarder la couleur.
Un râle, c'est un rouge à lèvres.
Ouais, ils ont pris ça là pour regarder un petit peu donc, le nombre de gens marrons, noirs, etc.
Non, mais c'est regarder les nationalités, ça, c'est le travail aussi.
Alors,
de prisons,
ça veut dire quoi ?
En termes de maison d'arrêt,
c'est une visite très politique. D'ailleurs, les élus RN, ils vont tout seuls.
Ils y vont tout seuls. C'est un choix assumé parce qu'ils auraient pu y aller le mois dernier. Ils étaient conviés à une autre visite dans cette même prison de Fresnes à l'initiative du président de la commission des lois, le macroniste Sacha Houlier, qui avait invité toutes les oppositions à venir avec lui. C'était le 14 octobre. Seuls les insoumis étaient finalement représentés. Plusieurs élus RN s'étaient décommandés. Ils s'étaient désistés au dernier moment. Ordre de Marine Le Pen, nous dit-on, qui voulait tout le monde dans l'hémicycle. Sauf que ce matin-là, à l'Assemblée, il y avait un débat sans vote, donc sans gros enjeux. En fait, la vraie raison, le RN a fini par nous la confirmer. On ne voulait pas être cornaqué par la majorité, on voulait y aller sans être chapeauté.
Peut-être parce que l'objet de la première visite était très différent aussi.
Exactement, à ce moment-là, il s'agissait de parler conditions de détention,
et voilà,
réinsertion, y compris par les activités proposées aux détenus, sortir des caricatures, disait-on dans la majorité. On avait trouvé ça regrettable, témoigne aujourd'hui un macronisme, parce qu'après la polémique, ils auraient pu voir que Fresnes, je cite, n'est pas le Club Med qu'ils imaginent. En l'occurrence, Fresnes, c'est la prison la plus vétuste de France, la plus insalubre, pointée par la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Sacha Houlier s'en amuse aujourd'hui. L'avantage de la démocratie, dit-il, c'est qu'il y a toujours une session de rattrapage pour les mauvais élèves.
Pourquoi t'es aussi choqué que ça, Jérôme, je crois?
Mais parce que c'est... Regardez un problème par le côté de la lorgnette qui t'arrange, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont voir que y aurait dans les prisons françaises plus d'émigrés que de Français. Mais qu'est-ce qui les a amenés là? C'est pas ce qu'ils ont rencontré, c'est pas l'extrême pauvreté, c'est pas, enfin, tout un tas de choses, quoi. On va juste regarder la couleur de peau et dire, oh là là, c'est, en entre parenthèses, c'est le seul endroit où le grand remplacement les gêne pas, quoi. C'est un petit peu ça l'idée, quoi. Non, c'est juste raciste, quoi. C'est juste raciste.
En même temps, t'attends quoi d'autre du RN ?
Non, rien, je suis pas surpris. Mais il pourrait y rester, ça serait pas
Didier.
Mal.
Bah, je constate que c'est une vraie stratégie de pas y aller au premier coup, quoi. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'instrumentaliser. Je suis pas aussi extrême que Jérôme sur le fait que c'est du racisme, mais je sens bien que derrière cette visite et le fait de pas y avoir été le premier coup, il y a quelque chose d'instrumentaliser, c'est fait exprès, c'est calculé, ça les amène à faire un espèce de buzz parce qu'ils y seront tous aujourd'hui, et derrière ça, ça enchaîne avec les prochaines discussions. J'en ai plein le dos, moi, de cette politique.
Ils pourraient s'interroger sur la vétusteté, parce que
mais non, mais moi, j'en ai plein d'autres, c'est une politique qui ne fait que de la com, quoi. C'est que de la com, quoi. Hein.
c'est que de la communication. Jamais enfin, on résout les vrais problèmes.
Rassemblement oui, national,
c'est bien qu'ils aillent sur le terrain quand
d'être
même.
D'être sur leur angle qui les a c'est permis d'avoir 89 députés.
Soyons pas dupes.
C'est quand même
ouais,
c'est bien d'aller sur le terrain.
Oui, c'est la politique. La politique, c'est la communication aussi, quoi, si tu veux.
On est allé à Fresnes. La politique, c'est résoudre les problèmes des Français.
On est allé à Fresnes. Quand on vous dit que la prison, il y a tant d'étrangers, voilà les chiffres.
On était sur place.
Vous ne pourrez pas dire le contraire maintenant. Et ils diront à la majorité maintenant, que faites-vous?
Les chiffres, on les connaît, en fait.
Les chiffres, on les a.
C'est interdit de faire des statistiques.
Le problème, c'est de résoudre.
Oui,
c'est de résoudre les problèmes, mais ça, c'est à la majorité de le résoudre.
Bah, on les fait quand même, les statistiques ethniques.
Oui, mais
dans les médias, on regarde la diversité. Ça s'appelle une statistique ethnique.
Ah, c'est ça, on te les impose. En prison, t'as pas le droit de les faire, mais dans les médias, on les impose.
On a les chiffres en prison, ils ont été publiés.
Là, on parle de nationalité, c'est même pas forcément des statistiques.
Oui, c'est pas si.
On parlait de nationalité et d'expulsion plutôt que d'enfermer.
Oui, et voir combien étaient sous OQTF, qui n'ont pas été exécutés et tout. Merci, monsieur Sébastien Krebs, merci de cet indiscret supplémentaire. À demain dans les GG. On va appeler Anaïs Sainz.
En direct du plateau 3 d'RMC, les GG vous présentent le quiz des grandes gueules.
Le retour de notre productrice, Anaïs. Alors, le quiz.
Rebonjour les GG, quel monument de la culture française va peut-être entrer au patrimoine mondial de l'UNESCO?
Oh, je l'ai vu ça.
Oh, ah, bon, non, je
la baguette,
en a parlé.
La baguette.
Bravo, la baguette que l'UNESCO va peut-être consacrer, on le saura aujourd'hui, pour sa croûte craquante et sa mie parfaitement aérée. La reconnaissance de l'UNESCO n'est que symbolique, mais les boulangers comptent l'utiliser pour créer des vocations. Bah oui. Ouais.
Mais vous êtes plutôt baguette tradition ou baguette traditionnelle? Enfin, la classique ou la tradition? Et maintenant, c'est la tradition qui se vend le plus.
Oui. Ouais, c'est vrai.
Il coûte plus cher.
À l'ancienne, comme on dit. L'autre jour,
Moi, je redécouvre la
vraie baguette.
Je pose la question parce que j'ai un peu marre la tradition qu'on t'offre,
Il y a un peu plus de levain dans la tradition.
Et la bonne baguette à l'ancienne, quand elle est bien faite,
La parisienne.
Elle est bonne, ouais. La parisienne.
Ouais, on va en trouver une bonne. Mais l'autre jour,
je vous donne mes habitudes en termes de pain.
Non, mais vas-y.
Et ben moi, je mange la grosse tourte d'un kilo qui sèche sur le côté et qui reste de la mie.
Et tu mets quoi dessus?
Elle dure une semaine.
Ah, la croûte épaisse.
Avec la croûte épaisse.
Elle
dure une semaine.
Et bien cuite. Voilà. Mais les gens ne mangent pas de pain, en fait. Ils mangent du pain.
Quand tu
les
vois rentrer, ils disent
pas trop cuit. Et avec une croûte très peu épaisse, tu peux faire un nœud avec le pain, là, avec ça. Non, mais c'est pas du pain. Le pain, c'est la tourte, effectivement, avec une croûte épaisse que tu peux garder une semaine
dans les vides.
C'est compliqué de la trouver cuite au feu de bois maintenant.
On est d'accord.
Continue.
Les GG, est-ce que oui ou non Karim Benzema pourrait réintégrer l'équipe de France en plein mondial?
Alors c'est une fausse info des médias.
Non, mais est-ce que oui?
Non, ça serait possible.
Voilà.
Si, il peut.
Il est sur la liste des 26, il a le droit.
Techniquement, la règlement de la Coupe du Monde lui autorise. Et pourquoi cette question? Parce que certains médias espagnols, effectivement, assuraient hier que l'attaquant français avait récupéré plus vite que prévu de sa blessure musculaire. Fake news. El Nueve, il est où en ce moment? Il est à La Réunion. Il a atterri ce matin.
En vacances?
Ouais. Et selon RMC Sport, il n'est de toute façon pas apte pour
il
le moment
éduque.
À rejouer. Les amis,
pour la piscine.
Les GG.
Je suis pas sûr que ses partenaires veuillent le voir arriver.
Après Aurore Berger, Karl Olive, Claire Aupetit par exemple, ou encore Sylvain Maillard, sur quel nouveau soutien Emmanuel Macron peut désormais compter?
Un soutien de personnalité, alors.
Un soutien aussi pourri que ce que tu viens de dire.
Non. Un soutien du monde artistique, d'une personnalité du monde artistique.
Un chanteur.
Chanteur international. Le chanteur de U2 qui a rencontré tous les présidents français dans le cadre de sa carrière. Mais pour lui, Emmanuel Macron sort du lot. Il était hier matin sur France Inter. Écoutez, regardez.
Il résout les problèmes. Il retrousse les manches, il est là. Et son alacrité verbale, son acuité intellectuelle. Franchement, ça ne se produit pas tout le temps. Hein. Tous les dirigeants du monde ne sont pas aussi intelligents.
Il sera réinvité à l'Elysée. Hein.
C'est lui qui fait la garden party l'an prochain.
Il est tout d'un coup beaucoup moins aimé sur Twitter.
Question rapidité, attention. C'est un peu le Didier Giraud des vestiaires dans ce mondial. L'entraîneur grande gueule dont les causeries sont devenues mythiques. De qui s'agit-il?
Celui contre l'esprit.
Hervé Renard.
Bravo Olivier. Hervé Renard, le coach français de la sélection saoudienne. Mieux que la cloche pour calmer tout le monde.
On va affronter en huitième de finale.
Son speech lors de la mi-temps Arabie Saoudite-Argentine est déjà entré dans la légende. Comment recadrer les troupes? Petit tuto avec Hervé Renard.
Messi, at the middle of the pitch, he has the ball, you stay in front of the defense. Take your phone, you can make a picture with him, if you want. You are in front of the defense. You have no money. He's going to follow.
Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il y a le traducteur parce qu'il parle anglais, il parle pas saoudien, et donc il y a le traducteur qui hurle très calme aussi. Lui. Mais qui,
oui.
Ce qui est mythique, c'est qu'il s'adresse à son défenseur en lui disant il y a Messi qui est au milieu, qu'est-ce que tu veux qu'on te donne un iPhone et que tu prends en photo au milieu du terrain avec Messi. Et finalement, au retour des vestiaires,
ça a marché.
L'Arabie Saoudite a.
Alors, ce genre d'attitude, ça marche qu'une fois.
Ouais, c'est ça le problème.
Ça marche bien. Mais ça marche qu'une fois. Si t'as un coach qui te hurle dessus toutes les semaines, ça marche plus.
Oui, au bout d'un moment, ça ne porte plus.
Ça marche une fois,
oui. Là, ça a bien marché parce que c'est.
Ils ont battu les Argentins.
La plus belle victoire de l'Arabie Saoudite de son histoire.
Mais c'est
la dernière.
Il a une sacrée. En France, on ne réalise pas.
Non, mais
il a une sacrée aura, Hervé Renard.
Il a amené le Ghana en finale de la Coupe d'Afrique des Nations.
Il a fait gagner deux Cannes, une à la Zambie, si je me souviens bien.
Et le Ghana, non?
Et le Ghana.
Et quand il a bossé en France, ça n'a pas marché, c'est marrant. Ouais.
Il a entraîné l'île, c'est ça.
Tu sais, sélectionneur et entraîneur de club, c'est pas le même métier. C'est pas le même métier du tout. Quoi.
Moi, j'aimerais vous l'envoyer à la pub quand vous êtes trop indiscipliné, les GG.
C'est une bonne idée.
Sarah, c'est pour toi. On va voir si t'es une vraie jeune de la génération Y. Si t'as le vocabulaire de la street, tu vas devoir me traduire les phrases suivantes pour Didier, par exemple, ou même Jérôme. Je ne sais pas s'ils vont participer. Mais on va voir. Oui, ils peuvent participer, mais je pense pas qu'ils vont pouvoir trouver. C'est trop d'art, les GG. En plus, il y a Didier Giraud. Il est grave zdeg. C'est une frappe.
C'est trop d'art, les GG.
J'ai trop le seum.
En plus, il y a Didier Giraud, il est grave zdeg, c'est une frappe.
Il est grave à l'ouest, il
est. Non, c'est tout le contraire. Il est génial, Didier Giraud. Il est super sympa, c'est une frappe, genre c'est une bombe atomique.
Ah oui, c'est de la frappe, ouais, j'aurais pu.
C'est de la frappe, c'est plutôt de la bombe.
Askip, à ce qu'il paraît.
Ce que tu viens de dire, c'était un compliment.
Tout à fait.
Mais bien sûr. Askip, il graille pas bio.
Askip, il fait pas bio.
Et fait que de dire que les véganes, c'est des schlags.
Askip, il mange pas bio, il fait que de dire que les véganes, c'est des chieurs.
C'est des baltringues.
Alors, Askip, ça veut dire
Askip paraît. Je l'ai follow sur TikTok, mais il ne m'a pas follow back. Je le stalk un peu et après, je le ghost à moins que je lui envoie un belfi.
Alors, je le suis sur TikTok, mais il ne m'a pas suivi en retour. Je l'espionne. C'est quoi la
suite? Non, je le ghost.
Je l'espionne et après, je l'ai ghosté. Comment on peut traduire ghosté? Je l'ai ignoré du jour au lendemain.
Voilà.
À moins que je lui envoie un belfi.
Pas mal.
Alors, belfi, j'ai découvert ce matin ce que c'était.
Ça, je l'ai pas.
Un
selfie où on se met beau gosse?
Non, c'est la contraction de butt qui veut dire fesse en anglais et selfie pour désigner les photos de son propre fessier.
Ah, tu fais une photo de tes fesses et tu l'envoies, quoi, c'est ça?
Oui, un nude. Bravo, Sarah.
Pas mal, c'est
des bravo,
pas mal,
bravo, ouais,
ça
bravo.
Va,
bravo.
Nouveau langage.
Là, on les a perdus, les deux.
C'était impossible de dire si c'était un compliment ou une insulte.
À vous de choisir.
Ah, j'ai bien aimé Squeeze.
De quel sujet voulez-vous que nous parlions ensemble, là, juste dans un instant, après 11h? L'explosion des paris sportifs en ligne, là, avec la Coupe du Monde. Attention, danger, addiction ou la pédopornographie. Le maire d'Échenon, en Côte d'Or, qui ne démissionne pas. Il dit, moi, je suis peut-être impliqué dans cette affaire de coup de filet, mais j'attends le procès. Et une fois, alors qu'il a reconnu une partie des faits, hein, une fois qu'il y aura le procès, on verra quelle est ma décision. Voilà, de quoi voulez-vous que nous parlions ensemble? C'est sur Internet que ça se passe, et ensuite on en discute au 32-16.
RMC, jusqu'à midi,
les grandes gueules.